Nous sommes revenus de vacances, donc les vacances, continuent, mais pas pour tout le monde. Nous, on est revenus de vacances, on était dans les Pyrénées, dans le Piémont pyrénéen, et puis là, on a vécu un choc thermique, puisqu'on a eu 2 jours à 15 degrés, à 14 heures. Donc ça faisait un petit coup de froid, mais ça a fait du bien. Et ça ne nous a pas empêché d'aller camper pendant 3 jours dans les Landes. Et un camping 4 étoiles avec animation tous les jours, enfin tous les soirs, vous savez, des animations près de la piscine. Et un soir, il y avait un concert et il y avait 2 types là qui étaient avec 2 musiciens, très très bons musiciens, avec une guitare sèche et l'autre avec une guitare électrique, et qui chantaient les tubes des années 70, 80, Dire Straits, Supertramp, Eagles, des magnifiques chants. Et ils étaient très très bons musiciens. Et ils ont fait toute la soirée et il y avait 15 spectateurs. Alors qu'il y a 400 emplacements dans ce camping 4 étoiles. Et puis le lendemain, il y avait la soirée karaoké. Et à la soirée karaoké, allez, souvenir de vacances, 110 personnes à la soirée karaoké. Et il y avait une ambiance fantastique, il y avait des enfants au premier rang, il y avait une personne qui essayait de chanter devant avec le micro en suivant les paroles, mais tout le monde chantait en fait en se regardant les uns les autres, en souriant, parfois même quand il s'agissait d'une chanson d'amour, on voyait des couples qui se chantaient l'un à l'autre cette chanson d'amour qui passait au karaoké. Il y avait une ambiance fantastique, il y avait une communion karaokéenne pour cette soirée karaoké au camping des Chevreuils, à Seignos. Et quand je suis allé me coucher, je me suis retourné sur mon matelas pneumatique pour essayer de dormir avec les lacs du Connemara au karaoké en bruit de fond. Et je me suis demandé ce qui faisait la différence entre les 2 soirées, la soirée concert avec 15 personnes, la soirée karaoké avec 110 personnes. Et il m'a semblé que la différence, elle se situait au niveau de la participation. Au karaoké, les gens participent. Ils chantent. Il y a une sorte de communion qui n'existe pas ou qui existe moins dans les autres concerts qui seraient plus classiques. Et j'ai continué à méditer les veilles de la nuit sur l'importance de la musique, du chant, dans nos vies. Et dans notre vie d'église, ou dans notre vie de piété, dans notre vie chrétienne, et dans notre vie d'église. Et notre étude sur l'épître de Paul aux Colossiens, parce que nous faisons depuis quelques mois déjà, depuis pratiquement un an, une étude sur la lettre que Paul a écrite aux chrétiens qui habitent la bonne ville de Colosse. Dans les années 60, il l'a écrite, cette lettre. Et pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux qui étaient là durant toute cette année, pour rappel, dans les 2 premiers chapitres de cet épître de Paul aux Colossiens, Paul fait de ce que l'on pourrait appeler de la théologie positionnelle. C'est-à-dire, il dit, vous êtes bien positionné en Christ si vous êtes chrétien. Votre vie est cachée en lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes avec lui assis dans les lieux célestes. Et parce que vous êtes bien positionné en Christ, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Et c'est important de comprendre cette théologie positionnelle, car c'est la théologie du Nouveau Testament, de la vie chrétienne. C'est parce que nous sommes positionnés en Christ que nous allons faire des choses différemment, et non pas nous allons faire des choses pour être bien positionnés en Christ. Le tout est, la différence est dans le parce que, c'est parce que nous sommes bien positionnés en Christ que notre vie va changer. Et non pas nous allons changer notre vie pour pouvoir obtenir la faveur de Dieu et d'être bien positionnés en lui. Non, c'est parce que nous sommes bien avec Christ, ressuscité avec lui, pardonné en lui, caché en lui, que nous allons vivre les choses différemment. Et dans le chapitre 3, on va voir un grand virage. Parce que vous êtes ressuscité avec Christ, vous allez rechercher les choses d'en haut et tendez vers les réalités d'en haut. Et nous avions vu en juin dernier, d'abord, le la première conséquence pratique de ce positionnement, vous voyez la position des étoiles bien positionnées, et à vos marques, prêts, partez, on est parti pour une vie nouvelle. Et le premier de ces changements, c'était au niveau de votre garde-robe, de notre garde-robe, c'est-à-dire nos comportements. Parce que nous sommes bien positionnés en Christ, nous allons changer nos comportements, les uns avec les autres, avec notre conjoint, avec notre famille, avec nos amis, avec les gens dans l'Église. Il y a l'amour qui va venir en premier, il y a le pardon qui va venir aussi, il y a la grâce qui va venir également. Et puis, en deuxième lieu, il y a une nouvelle conséquence pratique, et j'ai trouvé ce terme-là, et bien maintenant, parce que vous êtes bien positionnés en Christ, et bien maintenant, chantez, et je vous invite à lire avec moi, Le petit texte qui est sur l'écran, et c'est donc Colossiens 3, versets 16 à 17, « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui » à Dieu le Père. Et donc, ces quelques versets nous amènent à la question du karaoké dans l'Église, non, du chant dans l'Église, de la musique dans l'Église, et nous posent aussi quelques questions. Que faisons-nous quand nous chantons? Et Dadi nous a bien amené à ce moment de chant, mais que faisons-nous exactement quand nous chantons? À quoi ça sert de chanter? Et si j'ai pas envie de chanter? Toutes ces questions. Je me souviens que dans une église quelque part en Europe, dans le nord de l'Europe, j'étais en train de porter des caisses de micros et de câbles pour le culte, parce que tous les étés, nous avions un culte dans un autre local, et nous devions déménager donc tous ces étés-là, et puis tous les dimanches. Et je me suis arrêté dans la rue, juste devant ce local d'été pour l'église, et il y a un homme qui m'a arrêté et qui m'a dit... C'est votre groupe qui vient cet été? Et je me dis, aïe, encore une tuile. Quand on est jeune pasteur, il y a plein de tuiles, puis quand on est vieux pasteur aussi. Mais en fait, il m'a dit, non, mais je suis le voisin et j'ai envie de venir à votre culte. Rien que vos chants sont magnifiques. J'avais envie de lui dire que les prédications étaient pas mal non plus, mais il semblait que les chants lui suffisaient amplement pour avoir envie de venir dans notre église. Et ce témoignage n'est pas isolé, la musique dans l'Église, ou le chant dans l'Église, ou la musique de l'Église, a de l'impact dans la vie des gens, et pas seulement sur les visiteurs, mais aussi sur les participants, enfin j'espère. La musique marque notre vie, n'est-ce pas? Elle marque notre foi. Et dire qu'il s'en est fallu de peu pour qu'on nous la confisque. Au début de l'Église, dans l'Église qu'on appelle « primitive », tout allait bien sur le plan du chant et de la musique dans l'Église. Les chrétiens se réunissaient et chantaient ensemble, souvent avec des chants antiphoniques, c'est des groupes qui se répondaient l'un à l'autre, ou alors des chants à répond, comme on l'appelait, c'est-à-dire un soliste ou un chœur qui chante et l'assemblée reprend les refrains. Et puis, pour plus de facilité et pour éviter les risques de déraillement, l'assemblée a de moins en moins chanté les refrains. Et la musique est devenue l'affaire des moines ou des prêtres qui se répondaient les uns aux autres. Ils chantaient bien, mais ils chantaient seuls. En 1415, au concile de Constance, les évêques rassemblés au concile n'ont pas seulement parlé du sort à réserver au réformateur Jean Hus, qui a été condamné et brûlé, je crois. Mais ils ont aussi dit ce morceau de sagesse, les évêques au concile de Constance. Je cite, ouvrez les guillemets, « S'il est défendu aux laïcs de prêcher et d'interpréter l'Écriture, combien plus leur est-il interdit de chanter publiquement dans l'Église ?» On ferme. Logique implacable, c'est vrai, s'ils ne peuvent pas interpréter l'écriture, à combien plus forte raison, ils ne peuvent pas chanter publiquement dans l'église. Logique implacable, mais confiscation inacceptable de la musique par le clergé. Les choses ont changé depuis, même dans l'église catholique. Heureusement, la réforme est arrivée et elle a réformé le domaine de la musique et du chant aussi. Martin Luther, ancien moine, n'était pas seulement un théologien, mais aussi un formidable musicien qui a composé une multitude de chants basés sur la Bible et faciles à chanter. Il a pris les chants des bars ou des auberges de l'époque, qu'on chantait dans les auberges, et il y a mis des paroles bibliques pour que toute l'Église, pour que tous les laïcs, tout le peuple, c'est ça le sens du mot laïc, puissent chanter dans l'Église, puissent participer au chant. Et si Luther a introduit cette réforme dans l'Église par le chant, avec le chant, c'est certainement parce qu'il avait lu la Bible et il avait pu voir dans la Bible toute l'importance de la musique et du chant. Il avait lu que beaucoup de psaumes étaient chantés et destinés au chef des chantres. Vous l'avez lu dans les psaumes, au chef des chantres, c'est David qui écrit le plus souvent, accompagné d'instruments. Il avait lu aussi que Jésus chantait des cantiques sur le mont des Oliviers, et il a lu les passages du Nouveau Testament qui invitent les chrétiens de la Nouvelle Alliance à chanter comme celui que nous venons de voir, Colossiens 3, 16 et 17, non, 16 seulement. Avertissez-vous, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Revenons à la question du début et une question fondamentale, à quoi ça sert de chanter? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question comme quand toute l'assemblée reprenait pour la huitième fois la quatrième strophe du cantique 618 dans le recueil « Sur les ailes de la foi » Vous connaissez le 618 sur... Le titre, c'est « Sur les rives du Congo solitaire ». À quoi ça sert de chanter? Eh bien, je vous propose de donner une réponse en trois dimensions. Et la première de ces réponses, eh bien, chanter maintenant. S'il nous faut chanter, c'est pour la beauté de la chose, ou pour l'esthétisme de la chose. Quand on pose effectivement la question à la musique, à quoi tu sers, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est vouloir trouver une raison utile à tout ce que l'on fait, et quand l'utilitariste ne trouve pas de raison utile à ce qu'il fait, eh bien, il ne le fait pas. Pour l'utilitariste, il faut que cela serve à quelque chose, sinon ça n'a pas de valeur. Et l'utilitariste va avoir du mal à apprécier la musique parce que, fondamentalement, la musique ne sert à rien. Concrètement, matériellement, immédiatement. L'utilitariste, c'est la fourmi dans la fable de La Fontaine, qui travaille dur et qui méprise la cigale qui a chanté tout l'été, qui n'a rien fait d'utile et qui se trouve bien dépourvu quand la bise arrive. Et la fourmi n'est pas prêteuse et elle n'aime pas les artistes. Et elle lui dit d'un ton méprisant, « Eh bien, dansez maintenant. » Encore quelque chose qui ne sert à rien, la danse. Selon les critères de la fourmi qui juge tout selon le degré d'utilité immédiate et concrète. Et il me semble que nous courons le risque aujourd'hui, comme hier, d'être un petit peu trop fourmi dans la vie, dans notre vie chrétienne aussi, et pas assez cigale. Nous jugeons peut-être trop souvent d'après les critères de fourmi, et on ne peut pas juger la musique avec ce genre de critères. Parce que si on chante, si on compose, si on fait de la musique, c'est premièrement parce que c'est beau, parce que on le fait par souci d'esthétisme, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu qui aime le beau. Et donc nous, on fait du beau, on aime le beau parce que Dieu est beau, parce que Dieu aime la beauté, et on a ce sens inné, donné par Dieu, de la beauté. Vous savez où se trouve la première référence à la musique dans la Bible? Je vous le dis tout de suite, eh bien dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 4, et il faut bien lire pour le repérer, et je vous le lis, au chapitre 4, verset 20. Et je commence au verset Non, c'est 21 en fait, je commence au verset 20. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Et c'est intéressant que Yubal, l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, c'est un instrument de musique le chalumeau, se trouve coincé entre l'éleveur et le forgeron. Yubal, on aurait pu l'appeler Youplaboum. Terme jubilatoire entre deux garçons très sérieux, un éleveur et un forgeron, les pères de l'élevage et de l'industrie, deux activités essentielles pour le bien-être de l'humanité. Et au milieu de ces activités hyper utiles, se situe la musique mise au même rang que ces activités d'utilité publique, aussi importantes pour l'homme que la production de bovins et de tôles d'acier. Parce que l'utile ne suffit pas pour l'homme, on ne peut pas vivre avec du métal et des vaches, il nous faut de l'inutile et du beau, il nous faut de la musique. Dieu nous a créés à son image et il aime la musique, les musiciens, il aime les chanteurs, il aime ceux qui s'arrêtent dans le tourbillon de l'utilitaire et qui choisissent la bonne part, celle de l'inutile, celle de Marie qui s'agenouille aux pieds de Jésus. Geste tout à fait inutile, mais que Jésus appréciera. Dieu aime que nous fassions du beau pour lui, pour que nous lui retournions ce beau qu'il a créé. Dieu aime Jean-Sébastien Bach, musicien chrétien du début du XVIIIe siècle, qui écrivait sur chacun de ses manuscrits « Soli Deo Gloria »« À Dieu seul la gloire ». Dieu créateur du beau, je te rends gloire par la beauté que je produis par ma musique. À Dieu seul la gloire. Et Jean-Sébastien Bach avait bien compris, et peut-être plus que quiconque, que le son appartient à Dieu. Les notes, les mélodies lui appartiennent et que composer et chanter ces mélodies, c'était le lui rendre pour sa gloire, la gloire du créateur du bien inutile ou du beau inutile. Alors, chers amis, quelle est la place de la musique dans votre vie? Êtes-vous du type cigale ou fourmi? Il faut être efficace, même dans la vie et même dans la vie chrétienne. Il faut être intentionnel, il faut de temps en temps produire quelque chose. Mais il faut aussi laisser une place certaine et une certaine place de l'inutile dans notre vie. L'inutile et le beau, la musique, l'art. Entre l'éleveur et le forgeron se tient le musicien. Avons-nous laissé suffisamment de place pour Yubal dans notre vie? Le deuxième aspect, pourquoi chanter? C'est pour entretenir la foi, pour l'entretien. Et même si la musique n'a pas besoin d'être utile pour être jouée et chantée, même si elle se justifie en elle-même dans sa beauté, elle est quand même utile. Paul le dit dans Colossiens 3:16, « Instruisez-vous et avertissez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. » Et pour Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il est clair que le chant dans l'Église ne sert pas comme bouche-trou, pas comme un interlude, pour simplement passer d'une chose à l'autre en souplesse, pas un moyen pour attendre les retardataires, on va chanter un petit chant le temps que les gens s'installent, ou pour réveiller les endormis. Non, le chant dans l'Église, la musique, sert à l'édification, à l'instruction, à l'avertissement, à l'entretien, pour l'esthétisme, pour l'entretien de la foi. Et certains ont bien compris la capacité d'introduction de la musique. Vous savez que l'hérésie arienne du troisième ou quatrième siècle, d'Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ et les ancêtres des témoins de Jéhovah, l'hérésie arienne a été propagée par le chant. Les bons ariens se promenaient à travers les rues des villes en chantant leur point de vue sur la question de Christ dans une musique populaire. Et ça passait bien. Et un opposant à Luther a dit « Luther a damné plus d'âmes par ses chants qu'avec tous ses sermons et ses livres. » Le chant véhiculé par la musique a un impact énorme au niveau de l'instruction, de l'édification, de l'entretien spirituel, de l'encouragement. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, en 98, on était en vacances dans les Pyrénées-Orientales. Déjà, à l'époque, c'était les Pyrénées. Alors, en plein pays Qatar, d'ailleurs. Et il y avait les montagnes, mais le ciel était bas. Il faisait moche, il pluvinait, il n'y avait pas d'ambiance là. En plus, peut-être qu'on s'était un peu disputé, Yvonne et moi, ça nous arrivait souvent à l'époque avec les enfants en bas âge, fatigués, en vacances. Et les trois enfants derrière, l'ambiance était détestable. Et puis on a un petit gamin, Simon, pour ne pas le nommer, à 8 ans, qui commence à chanter « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et on a tous repris en cœur ce chant. Maranatha, viens Seigneur. Et l'ambiance a complètement changé dans la petite voiture des VDD dans cette année 98 dans les Pyrénées. Un moment de communion familiale avec Dieu qui a tout changé. Et combien d'entre nous n'ont-ils pas été aidés ou soutenus à un moment de difficile de leur vie par un chant, par un moment de louange? Il y en a beaucoup qui témoignent du fait que ce cantique-là ou ce cantique-ci les a beaucoup aidés dans ces moments difficiles. M'a fait du bien, m'a donné du courage, m'a donné la paix. Oui, la musique édifie. Et je me demande si nous ne devrions pas y penser plus souvent. Nous chantons souvent, parfois ce sont les mêmes chants qui reviennent, on n'est pas bien réveillé, on n'a peut-être pas envie de chanter. Et on oublie qu'il y a quelque chose d'important dans la vie spirituelle, et pas seulement pour ma foi, c'est pour ça que dans le titre j'ai parlé de, c'est pas pour entretenir ma foi seulement, mais la foi de l'Église, que par mon chant je participe à l'édification, à l'instruction, à l'avertissement, à l'encouragement de toute l'Église. Ça vaut la peine de chanter quand on voit le chant, la musique, et quand je joue dans l'instrument aussi. Et que la parole de Dieu qui habite parmi nous rebondit par la musique de tête en tête et de cœur en cœur, et elle ne revient pas à Dieu sans effet. Ne devrions-nous pas apprendre à la respecter, cette musique, non pas en la laissant pour les autres, hein, comme le travail pour les Corses, hein, le travail est sacré, n'y touchons pas, la musique est sacrée, n'y touchons pas. Non, la musique... Et pour nous, peuple de Dieu, pour que nous puissions édifier l'Église ensemble. Peut-être que nous devrions nous dire plus souvent, quand je chante, je participe à l'édification de l'Église. Et ce texte de Colossiens 3,16, inspiré par Dieu, nous invite à respecter la musique et à respecter aussi ceux qui composent la musique, ceux qui nous instruisent dans la musique, ceux qui dirigent les chants et qui chantent. Ce ne sont pas des troubadours ou des animateurs d'interludes musicaux, ce sont des bâtisseurs qui ont un ministère aussi d'édification, et il faut les voir comme tels et non pas comme des gens qui participent à une activité secondaire. Dans le passé, il y avait bien des églises qui avaient leur organiste privé qui était rémunéré pour jouer dans l'église. En Amérique, là où il y a des méga-churches, mais il y en a aussi en France maintenant, il y a des pasteurs de musique, il y a des music pastors, et qui sont à plein temps pour diriger la musique dans l'église. Pourquoi pas? Pourquoi pas chez nous? La musique et le chant sont trop importants pour ne pas y consacrer du temps, des talents, y mettre de la qualité, y mettre aussi de l'argent. Il nous faut reconnaître le ministère de la musique dans nos églises. Et j'ai une autre application pour les parents qui sont ici, qui ont des jeunes enfants. Il faut motiver nos enfants à jouer d'un instrument ou d'aller prendre des cours de chant pour qu'ils puissent mettre leurs dons au service de l'Église et de ce ministère du chant et de la musique. C'est ça aussi, reconnaître l'importance de la musique. Il y a un troisième et dernier point pour marquer son engagement, l'esthétisme, l'entretien et l'engagement. Sous l'inspiration de la grâce, nous dit Colossiens 3:16, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quand la bouche chante, le cœur s'engage. Et je cite Alfred Kuhn, vous savez Alfred Kuhn qui a écrit, l'Alsacien là, qui a écrit 150 livres, dont un qui s'intitule « Oui à la musique ». Voilà ce qu'il dit. « Mais lorsque je chante, une couche plus profonde de ma personnalité entre en jeu. Mes sentiments et même mon corps s'en trouvent impliqués. La musique aide à éveiller et à développer en nous des sentiments, à les affiner et les nuancer. Elle nous fait participer à la vie émotive des autres. Elle donne à la vie spirituelle une autre dimension. » Waouh ! Il y a quelque chose dans la musique qui nous prend tout entier. Et quand cette musique est dirigée vers Dieu, elle nous transporte tout entier vers Lui. Dans sa proximité, dans son Saint-Temple, dans sa Shekinah. C'est le terme hébreu pour parler de la présence rayonnante de Dieu, comme quand elle remplit le tabernacle, la tente de la rencontre. C'est l'expérience d'un David qui est habitué à cette Shekinah, lui qui a écrit tant de psaumes, dont le psaume 9 qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je me réjouirai en toi, j'exulterai, je chanterai ton nom. » Et on le perçoit bien dans cette louange de David, il y est tout entier et pour tous. Même si nous n'avons pas la même puissance poétique de David, le chant nous permet de dépasser certaines barrières ou des retenues, qu'elles soient culturelles, sociales ou cérébrales. Il me permet de communiquer à Dieu, de le louer, d'adorer avec tous les fibres de mon être. La musique et le chant ont cette capacité de nous mobiliser tout entier, d'engager tout notre être. Et la musique est entière, elle nous prend entièrement ou pas du tout, on ne triche pas avec la musique. Moi j'ai remarqué une chose, que quand on se sentait loin de Dieu, quand on était mal, quand il y avait un problème dans la vie, quand la relation avec Dieu n'était pas très bonne, quand il y a un problème non résolu qui nous pèse, on peut encore parler avec des amis, on peut encore fermer les yeux pour la prière, mais on peut difficilement chanter. C'est vrai, hein ? Quand on n'est pas bien, c'est extrêmement difficile de chanter sans son cœur, sans s'engager, de chanter du bout des lèvres. C'est difficile. On ne triche pas avec la musique parce que quand je chante, j'engage tout mon être, j'engage mon cœur, et c'est bien comme cela. Et le chant nous permet de nous remettre sans cesse en question. Est-ce que je peux chanter ça ? Par exemple, Christ est mon roi, est-ce que je peux chanter ça ? Et c'est difficile de le chanter. Mais cette remise en question nous permet d'avancer, de remettre les choses en ordre, de remettre les choses en perspective dans ma vie, de remettre Christ au centre, remettre Christ comme roi de ma vie. Et si on a de la peine à le chanter, au lieu de se dire ben, « je ne vais pas le chanter parce que ce n'est pas tout à fait le cas dans ma vie », bien non, je remets ma vie en ordre pour pouvoir le chanter pleinement. Au moment où je le chante, je le dis à Dieu « Seigneur, sois le roi, sois le centre de ma vie parce que je le chante, je le proclame, ce n'est pas tout à fait la réalité présente, mais je veux le faire, je veux que tu redeviennes le roi et le centre de ma vie ». Profiter du chant pour se remettre au diapason de Dieu, de se remettre en harmonie avec Dieu afin de chanter de tout son cœur. Et bien maintenant, chanter pour la beauté de la chose, pour entretenir la foi, pour marquer un engagement, pour l'esthétisme, pour l'entretien, pour l'engagement. Et puis il y a dans le texte, il est question de « sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu ». Sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce qui inspire la plupart de nos chansons au karaoké du camping des Chevreuils ? En général, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. Et puis, il y a Michel Sardou qui revient avec la maladie d'amour que tout le monde chante. Et là, nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens. En Espagne, c'est pour le flamenco, c'est la douleur qui inspire le flamenco. Pour les chrétiens, c'est la grâce. qui les fait chanter. Et parce qu'elle est riche, cette grâce, notre répertoire peut l'être également. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous a libérés de l'esclavage du mal et du péché, parce qu'il nous a libérés de l'esclavage de moi-même, alors je chante. Parce qu'il nous a réconciliés avec lui et avec les autres, parce qu'il nous donne un avenir fait d'espérance, alors tu chantes. Parce qu'il a transformé notre cœur de pierre en un cœur de chair, alors nous chantons de tout notre cœur. Cette source d'inspiration qui est la grâce est inépuisable, elle se renouvelle chaque matin pour un chant nouveau. Et sans qu'on se concerte, Daddy et moi, il a cité Apocalypse 4 qui parle d'un chant nouveau. Oui, la grâce de Dieu nous permet de chanter tous les jours un chant nouveau. Alors après cette apologie de la musique et du chant dans l'Église, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Vous avez lu la Bible, nous avons lu la Bible, nous avons prié, nous avons goûté combien le Seigneur était bon. Eh bien, chantez maintenant, chantons maintenant, soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter ce psaume 9, je crois. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai toutes ces merveilles. Ça, c'est pas un nouveau chant, mais on le chante d'une manière nouvelle.